Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Égide et je suis votre hôte pour le podcast Lentou. Ce podcast, c'est un espace pour toi, pour moi, pour ton frère, ta sœur, ton cousin, n'importe qui, n'importe quel afrodescendant. On s'assoit avec un thé, des biscuits à manger et on parle confortablement installé. On se prend pas la tête. Et pendant ce temps-là, on va discuter, on va découvrir cette jeunesse, on va découvrir notre jeunesse. On va parler des sujets qui nous intéressent, parler de nos vies, se poser des questions, réfléchir ensemble. Alors, le temps que ça va durer, installe-toi, mets-toi à l'aise et puis c'est parti. Ce premier épisode, j'ai la chance d'être accompagné de Walter.
Yes, yes,
Alors, Walter,
yes.
c'est bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici pour ce premier épisode. Merci d'avoir fait l'honneur de venir et de poser les questions aujourd'hui et de m'accompagner.
Non, franchement, merci à toi parce que c'est une première. Donc voilà, let's go.
T'inquiète, on
J'ai
est là,
hâte, j'ai
toi.
hâte.
On est en famille, t'inquiète. Franchement, voilà, Walter, on se connaît depuis des années. On travaille ensemble, on a cofondé et joué ensemble. Et c'était important pour moi, durant ce premier épisode, de pouvoir t'avoir. Parce que je me suis dit, voilà, premier épisode, les gens veulent savoir un peu qui on est. Et
Bah.
donc, rien que pour cette fois-ci, je te donne le privilège d'être le host. Donc, à toi la parole.
Thanks. Ok, alors on va y aller. Bah, déjà, comment vas-tu?
Bah écoute, je vais très bien. Vraiment, 2023, c'est une très très bonne année qui a vraiment bien débuté.
Ouais, je sais, voilà, étant dans ta vie également, donc je vois qu'il y a des dynamiques qui s'installent, qui sont vraiment prometteurs. Donc franchement, continue sur cette lancée et puis on y va quoi. Et en tout cas, je pense que là maintenant, les auditeurs se demandent en fait qui tu es. Alors, peux-tu nous donner voilà, un petit résumé de qui tu es du coup?
Ben ouais, bien sûr. Mon nom c'est Égide Izélé, donc j'ai 27 ans, bientôt 28 ans. Et, aïe aïe aïe, bientôt au tiers de vie, en tout cas. Donc,
T'inquiète, hein. On est ensemble.
je ne m'habitue pas encore. Dans ma tête, j'ai encore 22 ans. Dans ma tête, j'ai encore 22 ans. Non, 27 ans, dans la vie, je suis animateur sportif. Donc, j'organise des activités pour les enfants de l'extrascolaire et l'éducation à travers le sport. Je suis d'origine rwandaise. Né au Rwanda, arrivé en Belgique quand j'étais tout petit. Et sinon, j'ai une passion pour le scoutisme, pour la vie au grand air. J'aime beaucoup la littérature également et je m'intéresse à toutes les questions d'identité, de développement personnel, de psychologie et d'éducation, fatalement. Et on pourra en discuter peut-être tout à l'heure par rapport à Ejo. Donc voilà, je sais pas s'il y a
Ouais,
autre
non, mais je
chose.
pense, voilà, moi aussi, donc je pense que j'ai déjà entendu qu'on t'appelait souvent président, parfois on t'appelait scout, on t'appelait pélican. Ben, d'où vient en fait tous ces surnoms
Ah bah écoute, donc président, ça c'est un surnom qui m'est venu quand j'étais encore étudiant à Louvain-la-Neuve. Et donc moi, il faut savoir en fait que au début, quand j'étais petit, je rêvais d'être médecin. Donc j'ai dit, je vais commencer médecine. Et puis j'ai fait une première année et je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Donc j'ai changé. Donc j'arrive en sciences politiques. Et je demande à un ami, je dis, mais écoute, en sciences politiques, comment est-ce qu'on s'habille en Sciences Po? Parce que c'est le premier jour, tu vois. C'est bien, en secondaire, on arrivait, on voulait
Ouais, non,
flex,
je
vraiment la
vois
belle
ça.
tenue. Je dis, bon, comment on s'habille en sciences politiques à l'université?
Ouais.
Et il me dit, écoute, tu vois, quand tu mets un costard, tu fais la même chose, mais t'enlèves la veste. Je dis, ok, pas de souci. Donc j'arrive, je mets petite chemise, bien sapée, petit sac, petite mallette, et j'arrive en cours. Et en fait, il se trouve que quand j'arrive, je croise des amis, on s'installe. Et en fait, on avait l'habitude tous les lundis de venir saper en costume, en tenue et
Ouais, je
tout.
vois
Et
ça.
donc, au fil du temps, en fait, les gens ont dit, mais attendez, vous êtes des enfants de ministres, vous êtes des présidents ou quoi? Et puis, donc, ça a commencé par là. Et puis, tout simplement, quand je suis arrivé à la tête du cercle d'étudiants rwandais de Louvain-la-Neuve, et donc, je suis devenu président officiellement, en fait, c'est un surnom qui est resté, tout simplement. Mais donc, c'est parti du fait que le lundi, c'était le lundi de la sape, tout simplement, dans l'auditoire.
Ouais,
Donc,
non, mais
voilà.
ça aussi, je pense aussi parce que aussi t'as été dans beaucoup d'autres associations dans lesquelles voilà, tu étais un des précurseurs ou même des piliers. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vie associative que.
Waouh, hey, mais ça c'est. Ah oui, moi j'ai été du coup dans le monde étudiant, j'ai été dans la représentation étudiante aussi sur le campus, j'ai fait partie de l'AGL, j'étais dans un quota projet, donc c'est un logement en fait collectif à Louvain-la-Neuve et on est rassemblé autour d'un projet. Et donc moi c'est le projet, c'était autour de l'Afrique, et donc j'ai été membre dedans, j'ai été du coup un des responsables aussi là-bas, j'ai été dans le scoutisme, chef scout, directeur scout, d'ailleurs c'est là que vient Pélican, en fait c'est mon totem. Et quand on a grandi ensemble et qu'on a pris l'habitude de s'appeler Pélican à longueur de journée, ça reste. Et donc, même dans la vie de tous les jours. Enfin, moi, mes amis, j'ai du mal à les appeler par leur prénom, en fait. Je les appelle par leur totem parce que c'est l'habitude qu'on a prise, tout simplement. Mais sinon, dans ma vie, ouais, associative, j'ai été aussi dans un mouvement politique panafricain, donc je suis encore membre. Et puis, en fait, j'aime crier. J'aime crier, j'aime être autour des personnes. Et au fur et à mesure que mes envies, que j'apprenais à me connaître, à me découvrir, à voir ce que j'aimais, j'explorais en fait pour savoir, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et donc j'étais dans plein de projets. Et comme j'aime prendre des responsabilités, j'aime aller de l'avant, j'aime amener des sujets, ça a fait qu'à chaque fois j'avais des responsabilités qui venaient. Et moi j'étais content quand même de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice.
Trop,
Mais
trop bien. En tout
du
cas,
coup, les
merci,
gens ont
merci.
commencé à m'appeler président un peu partout. J'ai dit, ah, faut arrêter, faut arrêter.
En tout cas, merci, merci de t'ouvrir voilà, aux auditeurs aussi, puisque je pense qu'ils vont se poser beaucoup de questions. Mais ok, là, il y a un podcast qui arrive parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres podcasts. Et du coup, ils aimeraient également donc savoir, ok, tu aimes créer. Et voilà, il y a un an aussi, j'ai entendu parler que tu as cofondé une association, une ASBL. Alors, parlons de ce bébé qui est né il y a un an.
Ah, Ejo, Ejo, Ejo.
Oui.
Bah oui, donc c'est un centre éducatif. Alors bon, pour l'instant, c'est encore la forme d'un mouvement de jeunesse. Et donc, on l'a créé, bah oui, du coup, il y a un an, bah t'étais là en plus.
Ouais, non, mais
On
je
était
fais là maintenant, je suis host, hein. Là, j'ai pris la casquette de
Ok.
voilà d'un invité, je te connais pas,
Ça va,
etc.,
pardon,
etc.
pardon. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, excusez-moi. Ouais, donc, Ejo, en fait, c'est parti d'une idée très simple. On était en plein confinement. Et comme j'ai dit, je suis un scout dans l'âme, donc j'aime être dehors. Et je supportais pas d'être enfermé. Et je voyais mes frères et sœurs qui étaient enfermés aussi, parce que tout était fermé. Donc au final, tu es à la maison. Et je me suis dit, mais en vrai, le seul secteur qui n'est pas fermé, c'est le scoutisme. Parce qu'avec les scouts de mon église, en fait, on avait repris les activités. Et il se trouve que j'avais écrit un jour un plan, une école idéale, un centre pour jeunes. Et il y avait en fait dedans un mouvement de jeunesse panafricain. Et donc je me suis dit, écoutez, vu qu'on est tous enfermés, vu que les mouvements scouts peuvent quand même se réunir même s'il y a des restrictions, venez, venez, on lance ça. Et donc je t'en ai parlé, j'ai parlé à quelques amis, ça leur a plu, et on a organisé. Et puis les jeunes sont venus, et on a lancé le mouvement comme ça. Et depuis un an, donc on est vraiment une ASBL, parce qu'entre-temps ça a grandi, on s'est dit, voilà, on va se structurer, on veut que ça reste vraiment on veut construire quelque chose qui va durer, et qui va rester non seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Et donc on s'est dit, ok. On s'assoit, on fait des statuts, on crée une ASBL. Et donc, ouais, depuis un an, Ejo Belgique existe en tant qu'ASBL. Et donc, on fait des animations une fois par mois.
Ah, merci, merci, merci. Et je me rappelle aussi le jour où, du coup, on va dire, on a pris la décision de commencer, voilà, Ejo. On travaillait aussi sur un autre projet, donc, qui était l'école des langues. Donc,
Tout à fait, tout
on
à
a.
fait. Ou la
On,
gay, hein.
ouais,
C'était le nom
on
qu'on avait
bloquait. Donc,
utilisé.
du coup, ouais, c'était. Je sais pas si tu peux nous parler aussi un peu de ça, parce que, voilà, quand on crée, souvent aussi, il y a un parcours de vie. Donc voilà, peux-tu nous parler un peu peut-être de cet épisode-là, vu que donc tu quittais un projet voilà, pour en créer aussi un autre. Et donc du coup, est-ce que tu peux brièvement nous parler un peu de.
Ouais, tout à fait. En fait, pour parler de ça, il faut que je revienne à mon enfance. Je le disais un peu en intro, moi je suis né au Rwanda. Je suis arrivé ici quand j'étais assez jeune. Et donc j'ai grandi, voilà, quand je suis arrivé ici, c'était moi, ma maman qui était enceinte de 28 ans. En vrai, c'était nous trois. Notre petit concon, je ne parlais pas du tout français. Enfin, moi j'étais un Rwandais, je parlais Kinyarwanda. Et même quand j'arrivais ici, ma maman aimait souvent dire que j'aimais trop parler. J'avais 5 ans, mais je me mêlais des discussions politiques. Mais tu sais, je me rendais pas compte. C'est juste que je voulais partager et c'était ma culture. J'étais avec des gens qui parlaient kinyarwanda, donc moi j'étais super content. Mais en grandissant, au fur et à mesure, voilà, c'est la vie en fait de réfugié. Tu viens, tu t'installes, tu apprends une langue, tu apprends une culture, tu t'intègres dans une société. Et en grandissant, je me suis en fait de plus en plus coupé un peu de mes racines rwandaises. J'avais comme cet ancrage-là dans ma famille et au niveau de l'église. Mais j'ai arrêté de parler Kinyarwanda pour apprendre le français, au point où j'avais l'habitude d'entendre le Kinyarwanda, parce que à la maison, ma maman parlait Kinyarwanda, des oncles, les tantes, à l'église, on parlait Kinyarwanda, mais moi, je parlais français. Et en grandissant, arrive un moment où tu te poses des questions. Je me demande quelle est mon identité. J'arrive dans une société qui me dit tu es rwandais, Mais moi, je ne me sens pas entièrement rwandais quand j'entre à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et que je me dis, mais ouais, je suis rwandais, mais quand je croise d'autres rwandais, ils semblent plus rwandais que moi. Et donc, tous ces questionnements-là ben, m'ont amené à vouloir creuser. Et donc, j'ai d'abord commencé en suivant beaucoup de films sur ce qui s'est passé en 94 au Rwanda, en posant des questions à ma famille. Une fois, je me suis assis avec ma maman pour me demander aussi des questions par rapport à mon père, l'histoire de la famille. Donc, je suis vraiment dans une quête d'identité. Et quand je suis arrivé à l'université, bah, j'ai découvert qu'il y avait un cercle d'étudiants rwandais qui existait. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de me reconnecter justement avec cette identité-là. C'est l'occasion justement de réapprendre ma langue parce que je me dis, voilà, un cercle d'étudiants rwandais, ils organisent des cours de langue, ils organisent des cours de danse. Il y a un aspect culturel dedans. Donc, je vais apprendre, je vais être entouré d'autres Rwandais. Et donc, je rejoins le cercle et effectivement, je suis entouré d'autres Rwandais. Mais malheureusement, voilà, c'est un cercle étudiantin. Donc, les gens vont et viennent. Et il y avait des cours de Kinyarwanda, mais malheureusement, l'année où je suis arrivé, c'est des cours qui ne se donnaient plus. Et moi, je trouvais ça dommage parce que c'est une des choses qui m'avait amené là. Et donc, je me dis, bah, écoutez, les gars, est-ce que ce serait pas chaud qu'on relance en fait les cours de Kinyarwanda? Et donc, ils me disent, ouais, on est intéressé. Donc, je réunis quelques amis. J'avais une amie qui donnait cours justement quand elle était en Centrafrique. De Kinyarwanda, et donc elle avait des petits manuels. Donc voilà, on s'organise, on met ça en place. Et au fil des années, ça grandit, on recrute des gens comme Yambélé qui viennent nous donner cours. Et en fait, dans mon propre cheminement, je rencontre d'autres Rwandais qui sont dans ce cheminement-là. Et qui ont aussi. Parce que chez nous, c'est une des particularités, c'est que c'est un pays où tout le monde parle la même langue. Et donc pour avoir accès à la culture et à tout l'héritage, aux livres anciens, aux chansons, enfin tous les éléments passent par la langue. Donc, c'est hyper important de connaître la langue. Et donc, ça leur parle aussi. Et commence à suivre les cours et à soutenir. Et à un moment donné, bah, me vient, quand je vois un peu le succès qu'on a, je me dis, mais cette initiative-là ne peut pas disparaître. C'est-à-dire que si nous, on part, ou si des gens qui donnent ces cours-là bah, ne sont plus là, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas de continuité. Et donc, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça perdure? Et là me vient l'idée, mais pourquoi ne pas ouvrir une école de Kinyarwanda en Belgique et peut-être partir de notre initiative et en faire quelque chose qui est beaucoup plus structuré. Et donc c'est là où ben, je t'en parle, j'en parle aussi à d'autres personnes qui me disent qu'ils sont intéressés, je récolte des documents. Et donc en fait c'était ça et Denisa, c'était vraiment de partir des cours que nous on avait déjà créés avec Yambélé, avec le CRL, et de pouvoir, en collaboration avec les CRL, en faire vraiment une école de Kinyarwanda qui puisse donner cours aux autres comme moi justement qui ont envie de parler leur langue. Mais après voilà, les réalités de la vie, le Covid font que ben, à un moment donné on s'est retrouvé bloqué et puis voilà, les disponibilités des uns et des autres font que le projet n'a pas pu se concrétiser. Et donc ben, c'est là où on discutait et je me suis dit ben, si l'école de langue ne peut pas se mettre en place, parce que j'avais aussi une idée de me dire voilà, commence par le Kinyarwanda mais peut-être qu'on va intégrer d'autres langues par après si d'autres communautés veulent justement structurer des cours de langue pour leur langue à eux, ben, qu'ils viennent, on s'organise et toute la communauté, et tous les Africains qu'on a en Belgique, on va créer une école de langue africaine parce que ben, il n'y en a pas en fait pour l'instant en Belgique. Et bon, la vie a fait qu'on n'a pas pu le lancer et il y avait l'opportunité de mettre en place un projet pour les enfants et étant animateur scout, étant donné que voilà, j'avais les compétences pour ça, je me suis dit ben, c'est un projet que je peux lancer beaucoup plus facilement parce que Kinyarwanda, je ne le maîtrise pas, mais toute l'animation, ça, je connais.
Oui, il y avait aussi cette question de. Je me rappelle quand on discutait du coup et que finalement, donc on a conclu donc on a eu la conclusion qu'il fallait créer EJO. C'est qu'il y avait aussi l'idée qu'il existait déjà pas mal de structures qui accompagnaient voilà des jeunes ou même voilà des personnes juste qui voulaient en fait apprendre le Kinyarwanda. Et qui avait donc quand même pas mal de plateformes et que tu trouvais important de laisser cette entraide communautaire qu'il faut pas toujours en fait créer pour créer, mais que si quand il y a déjà des plateformes, des structures qui voilà qui font ce qu'on veut créer, juste en fait voilà recommander ces structures-là au lieu de
C'est
juste
ça.
créer une autre structure quoi.
Tout à fait. Moi, c'est vraiment l'optique que j'ai toujours eue depuis, même depuis que je suis petit. C'est vraiment une optique de collectivité. Moi, j'ai jamais voulu. Je suis quelqu'un qui, naturellement, je cherche pas la lumière ou des lauriers. C'est juste, voilà, moi j'ai un besoin. s'il n'y a rien qui se met en place, ben, viens, je vais créer un truc. Et puis, si ça résonne avec d'autres personnes, ben, tant mieux, rejoignez-moi. Si je peux vous être utile, tu sais, les cours de Kinyarwanda qu'on a eus, des gens nous ont demandé comment vous avez structuré les cours. Moi, j'ai aucun souci à partager, en fait. Ben, tenir, regardez comment on a fait. Enfin, moi, vraiment, mon point de vue et mon optique, ça a toujours été une optique pour la communauté et par la communauté. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il y a assez de talent pour que nous tous, on puisse briller, pour que nous tous, on puisse se mettre ensemble et créer quelque chose qui va durer. Et donc, oui, si quelqu'un fait déjà ce que nous, on voulait faire, bah, tant mieux, on va donner de la force. Parce qu'on avait fait une étude de marché. Déjà, les gens comprennent. On s'est posé, on s'est dit, on va créer un vrai business. On va faire une étude de marché. On a fait des coachings sur comment créer une étude de marché. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses, mais elles n'étaient pas accessibles pour les étudiants. Où les gens n'étaient pas au courant. Et donc, bah, comme tu l'as dit, ouais, ça ne sert à rien de recréer l'eau chaude, en fait. Il y a quelqu'un, un frère à créer, une sœur à créer, viens, on donne de la force, on va faire la promotion. Voilà, on va dire, écoute, voilà, il y a des étudiants qui sont là, ils n'ont peut-être pas les moyens, est-ce que tu peux créer quelque chose? Si on peut t'aider, si on peut donner notre opinion, bah, vas-y, on va donner notre opinion. Mais si les gens ont de la force, vas-y, franchement, créez. Et si des gens veulent bosser avec nous sur un sou, mais venez, tu t'amènes ton projet, j'amène mon projet, on se met ensemble, on met nos forces en commun et puis on avance.
Ouais, ça c'est Egide. Mais là, ça fait un an que tu brilles chez Joe. Et donc, du coup, là, on va quand même parler des Joe, voilà, vu que aussi c'est le sujet aussi de ce podcast. Et l'objectif est d'éclaircir ce qu'est EJO, mais également voilà, la vision, la mission, mais également les activités qui sont faites chez EJO. Du coup, la première question, je pense que les gens vont se demander, en fait, c'est quoi EJO? Et je ne sais pas si tu peux nous éclaircir
sur ça. En fait, c'est très simple. Avant tout, c'est un espace. Avant tout, c'est vraiment un espace. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, moi, j'ai une idée. J'ai dit, il faut organiser des activités pour les enfants. Étant africain, ayant eu justement des problèmes, étant posé énormément de questions par rapport à mon identité africaine, ayant eu. Et ces questionnements étaient provoqués ben, soit par mon expérience en tant qu'homme noir en Belgique, en tant que réfugié, c'est-à-dire que moi j'ai la nationalité belge, mais je me sens pleinement africain parce que ben, je suis né là-bas, j'ai mes premières années étaient là-bas. Et en même temps, quand je rencontrais, et notamment une fois, je sortais avec une sœur. Avec une sœur qui venait du continent, et elle me disait, mais t'es pas africain en fait. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience en fait de la part belge dans ma personne et dans mon identité que moi je voulais pas reconnaître. Et donc ça m'a amené à aller un peu plus loin, à me dire, ok, je me considère comme rwandais, mais ça veut dire quoi être rwandais? Je me considère comme africain, ça veut dire quoi concrètement d'être africain? Qu'est-ce qui fait de moi un africain? Quelle part de moi est africaine? Quelle part est belge? Quelle part est peut-être vient des États-Unis, de par l'influence culturelle, des livres, de ce que j'ai lu. Enfin, tous ces questionnements-là, justement, par rapport à, voilà, mon identité est un patchwork, qu'est-ce qui se retrouve dedans? Et en même temps, étant enfant, j'aurais aimé avoir un espace où je pouvais être un enfant. Moi, cet espace-là, je l'ai trouvé dans le scoutisme. Parce que, comme je dis, quand je suis arrivé, c'était ma maman, moi et ma petite sœur qui était bébé. Donc, très vite, j'ai dû prendre des responsabilités. J'ai pas eu l'occasion d'avoir l'insouciance d'un enfant. Non, j'étais l'homme de la famille jusqu'à mes 13 ans. Et donc, je devais aider. Donc, je prenais des responsabilités. Et donc, bah, moi, les moments de jeu que j'avais, bah, c'était au scout, c'était parfois à l'école. Mais je n'avais pas forcément un espace où je pouvais être avec d'autres enfants africains dans une totale insouciance. Et juste de me dire, je vais faire des choses, mais personne ne va... dire, ah, voyez, c'est des noirs. Personne ne va extrapoler, en fait. Je suis juste un enfant qui fait du bruit, qui fait des bêtises, qui est insouciant, mais ça va rester moi. Et je suis conscient, en fait, qu'en tant que personne noire dans cette société, bah, dès que je fais quelque chose, automatiquement, on va extrapoler et dire, tous les noirs sont comme ça, et ainsi de suite. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me manquait. Ça me manquait aussi de passer du temps avec d'autres Africains, d'autres enfants africains, et de faire des jeux, et de parler de nous, du continent. Et donc, les jeux, c'est d'abord un espace où des personnes viennent pour partager, en fait. On vient passer des moments ensemble. C'est un espace où tu es toi-même. C'est-à-dire que nous, vraiment, c'est l'acceptation. Tu viens comme tu es, avec ta folie, avec... Franchement, tout est possible chez les gens. Maintenant, voilà, les animateurs qui sont là pour cadrer, que les choses se passent bien. Mais je veux dire, la première définition, c'est les gens, c'est vraiment un espace qui a pour objectif que chacun puisse s'y retrouver et qu'on vienne avec nos questionnements et que chacun puisse apporter son expérience. Voilà ce que moi j'ai vécu, voilà ce que moi j'ai appris au cours de ma vie, et je le transmets par le jeu, je le transmets par des ateliers, je le transmets dans des discussions qu'on passe ensemble, par des jeux, par la musique. Toi aussi, tu amènes qui tu es, tes questionnements, les clés que tu as trouvés. Toi aussi, on invite des parents, des gens, on fait des voyages. Enfin, c'est vraiment c'est un espace vraiment pour nous, en fait.
Oui, je vois, je vois. Et peux-tu aussi expliquer, du coup, le nom Ejo, d'où est-ce que ça vient, et également, voilà, ça signifie quoi et...
Alors, Ejo, en fait, ça, c'est un nom qui vient du Kinyarwanda, et donc qui peut signifier « hier » ou demain, en fonction du contexte. Ejo Hachize ou Ejo Bundi. Et pourquoi est-ce que ce nom était important? Parce qu'en fait, il y avait la notion de pont. C'est-à-dire que moi, je suis parti de Rwanda quand j'avais 5 ans. Bon, j'ai perdu mon père aussi très tôt dans ma vie. Donc, cet ancrage, cette transmission de la culture qui serait faite naturellement par mes parents si j'avais été au Rwanda ou s'ils avaient été là tous les deux. Et donc, ils avaient eu le temps... en plus de devoir courir pour chercher un emploi, pour devoir s'installer en Belgique, tout ce temps-là qu'ils n'ont pas eu parce que ma maman était toute seule, en fait, et donc qui a fait que y a une transmission que je n'ai pas eue, et ben c'est ça, en fait, qui me pousse, parce que je me rends compte qu'il y en a d'autres aussi qui souffrent de ça, de ce déracinement, de ce manque de transmission. Et donc, c'était important pour moi de dire, OK, il y a une transmission, on doit s'intéresser au passé, mais le passé doit nous servir à construire l'avenir. Tu vois, on dit en Kinyarwanda... tu vois, celui qui n'a pas parlé à son père ne saura pas ce que son grand-père a dit. Mais, et donc, c'est cette notion-là, c'est de dire, voilà, il faut s'intéresser au passé, il faut parler aux anciens, il faut les respecter, leur donner de l'importance parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. C'est des éclaircissements par rapport à qui on est. Quand moi, j'ai creusé l'histoire du Rwanda, l'histoire de l'Afrique, j'ai trouvé des réponses à mes questions. Mais tout cet élément doit nous servir pour pouvoir construire un avenir, que nous aussi, on puisse... transmettre, en fait, après nous, mais surtout qu'on prenne ça, qu'on prenne ces fondations-là, qu'on les pose, et que de ces fondations-là, on construise notre propre maison. Et cette maison-là, quelqu'un d'autre viendra la reprendre, s'inspirera de cette maison pour construire sa maison, et ainsi de suite.
Ok, ok, ok. Et quelles sont les activités, du coup, que j'organise pour les enfants?
Franchement, il n'y a pas de limite, hein. Et il n'y a pas de limite. Nous, on fait des activités de type jeu, avec des jeux de rôle, des prises de camp. On va dans la forêt, on fait des activités danse, on fait des mini-jeux, mais on prévoit d'avoir des ateliers. On fait des excursions aussi. On essaie, voilà, de visiter un peu, d'élargir, en fait, les horizons. C'est-à-dire que ne restons pas enfermés dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'ensemble, on peut aller plus loin. Et donc, on prend des jeunes qui ont peut-être été tout le temps à Bruxelles. Venez, on va aller à l'autre bout de la Belgique, au domaine provincial de Chauvetagne. Des espaces où on n'est pas là, en fait. Des gens n'ont pas l'habitude de voir des Africains. Nous, on va aller à la patinoire, on va se faire des soirées cinéma. Enfin, vraiment, il y a de tout. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est les animateurs et les enfants qui disent, moi, j'ai envie de faire ça. Venez, on crée. Donc si les gens me disent demain, venez, les gars, on va au Kenya. On s'organise, on va au Kenya, en fait.
Donc, c'est une co-création donc des enfants et des animateurs.
Sans et des
oublier
parents.
Aussi les parents, donc
ouais,
toute la
des
communauté.
Parents, de la communauté. Je me souviens, quand on a commencé, il y avait des membres de Cafu Guinée, qui est une structure d'école des devoirs. Ils ont dit, voilà, nous, on aide les enfants pour leurs devoirs. Est-ce que vous êtes intéressés de pouvoir mettre des animateurs à disposition? J'ai dit, ouais, des animateurs sont allés pour donner école des devoirs et pour, voilà, pour aider un peu ces jeunes à apprendre, en fait, avec leurs difficultés peut-être scolaires. Et puis on a dit, écoutez, vos jeunes, si vous voulez, ils peuvent aussi venir avec nous en activité. Et donc, ils sont venus avec nous en activité. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite. Nous, on fait beaucoup de jeux autour de la nature, autour du sport. Mais après, il n'y a vraiment aucune limite.
Oh, intéressant, intéressant. Je fais comme si je ne connaissais pas le projet. Hein.
Pas de soucis, vas-y, continue.
On continue dans cette dynamique.
Bon. Il y a la bonne vibe là.
Là, j'ai aussi une question par rapport au public cible. Donc, c'est de quel âge à quel âge? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les adolescents? Est-ce que tu peux un peu...
Franchement, comme j'ai dit, c'est vraiment un espace pour la communauté. Donc, moi, j'ai toujours eu... Franchement, depuis que je suis petit... C'est vraiment une chose que tout le monde pourra dire, c'est que j'adore les enfants de manière générale. Passer du temps avec eux. J'ai toujours celui qui s'occupait des petits. Il dit, ça me fendait le cœur. Mais en même temps, par mon parcours, j'ai pu être animateur scout d'adolescents. Et j'ai adoré, en fait, accompagner des adolescents. J'ai adoré parler avec eux, découvrir leurs réflexions, parce qu'en fait, ils ont des vraies réflexions, ils ont vraiment des pensées qui sont super intéressantes. Et moi, ma plus belle récompense, et pour le staff aussi, c'était quand un jeune revenait et me disait, franchement, les amis, ça fait peut-être un an que je suis parti, mais vous m'avez aidé à ce moment-là, vous m'avez aidé à trouver ma voie, ou bien vous m'avez donné une autre perspective que je n'avais pas forcément, et puis il fait sa route. Et en même temps, on adore aussi au niveau des jeux, on comprend que c'est important aussi que les parents aient un espace, que les parents puissent aussi se reposer en vrai. Je pense que ça fait du bien aussi de pouvoir se reposer, de dire voilà, je m'occupe de mes enfants toute la journée, ça me fait plaisir de pouvoir les mettre dans un espace où je sais qu'ils vont être bien, qu'on va bien s'occuper d'eux, qu'on va transmettre des valeurs, et pensant là, ben moi je me pose. Et donc, en vrai, les jeux, c'est pour tous ceux qui le souhaitent. Nous, on va développer des activités. C'est vrai que c'est plus pour des enfants. Mais après, à terme, nous on se dit en vrai, comme je dis, si quelqu'un veut développer quelque chose, vous venez, on développe. Pour les parents, voilà. Vraiment, c'est ouvert. Ça, je pourrais donner. Effectivement, aujourd'hui, on fait du 9-12. C'est un tranche d'âge qu'on accueille. Mais parce qu'on fait avec les moyens qu'on a actuellement et les possibilités qu'on a et les jeunes qui étaient intéressés. Mais après, le projet, c'est de pouvoir apporter à tout le monde.
Ok, donc c'est sur le long terme, voilà, ce sera un espace ouvert à tout le monde, même si maintenant aussi c'est voilà, c'est ouvert à tout le monde, donc c'est en termes de communauté, mais sur le court terme, donc là maintenant le public cible c'est bien 9-12 ans,
Ouais, pour l'instant,
et puis
c'est 9-12 ans.
c'est 9-12 ans, ok.
Voilà.
Et j'ai entendu parler aussi des ateliers qui vont commencer pour les
Hey, on
adolescents.
peut pas tout dire. On
Ou,
peut pas tout dire. Là, c'est le podcast. On va pas tout
On va
révéler.
pas tout
Les
révéler.
gens peuvent nous suivre sur
Ok,
Instagram, sur les réseaux.
c'est un oiseau
Voilà.
qui m'a parlé
On
de
va
ça, mais
pas tout
peut-être
sortir. On va pas tout sortir.
il s'était trompé. Mais du coup, ouais, continuons. Et j'aimerais, moi, connaître du coup aussi la vision, la mission aussi des jeux sur le long terme. Donc, quel est aussi l'objectif? Où est-ce que,
Où est-ce qu'on veut
voilà,
aller en fait?
ouais, où est-ce que
Ben,
vous voulez aller?
ça, ouais, ben, où est-ce qu'on veut aller? C'est ça, c'est-à-dire que la vision, c'est vraiment d'avoir en un endroit des outils qui vont permettre à toute personne de la communauté, du plus petit jusqu'au plus grand, de pouvoir se développer, de pouvoir évoluer en tant que personne, mais tout en s'amusant. Et donc, la vision, c'est à terme en fait de pouvoir apporter vraiment tout ce dont les gens ont besoin en termes éducatifs, que ce soit de l'animation, que ce soit des livres, que ce soit un espace pour créer. Pourquoi pas aussi, comme je dis, vraiment, si des gens ont des projets, parce qu'on peut pas tout faire, si les gens ont envie d'amener des choses, ils peuvent très bien faire aussi les questions de la santé, il y a des études qu'il faut mener aussi. Enfin, tu sais, moi, je m'intéresse à tout ce qui est la question de l'éducation. Et donc, à un moment donné, je me suis posé la question, mais il y a beaucoup d'études sur le développement psychologique des enfants, les émotions, les besoins des enfants. Mais combien d'études existent sur les enfants africains? Et je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et c'est aussi des éléments en fait, qui manquent, des outils qui manquent pour les parents, pour des professionnels, pour des éducateurs qui ont envie de mettre en place un projet. C'est des informations qui manquent. Et donc, le but, c'est aussi à un moment donné, c'est de peut-être capable aussi, d'après notre expérience, bah de développer des études, de pouvoir transmettre en fait tout ce que nous on a appris pour que d'autres puissent s'enrichir de ça et puissent reprendre ça et créer à partir de cela. Donc la vision, c'est de devoir voilà, d'avoir un bâtiment à terme, d'avoir des espaces qui sont à nous, de pouvoir accueillir des enfants, d'avoir des animations, de pouvoir proposer des ateliers créatifs, de pouvoir leur mettre à disposition des outils. Pour se développer, pour travailler leur imaginaire. Et voilà.
Ok. Du coup, maintenant, passons quand même au podcast.
Allons-y, allons-y.
Voilà. Peux-tu aussi expliquer le nom du podcast et pourquoi tu l'as nommé ainsi?
Ah, et ben écoute, les Ntous, tout simplement parce que la région d'Afrique dont moi je viens, la particule Ntou sert à désigner les humains. Ah ben nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle grossièrement un peu les langues bantoues, parce que simplement le ntou revient pour désigner un être humain. Et donc les ntous, en fait, c'est simplement le nom de notre mouvement de jeunesse. Le mouvement de jeunesse de Ejo s'appelle les ntous. Bah, pour dire, bah, nous sommes des gens, en fait. C'est toi, c'est moi, c'est n'importe quel afrodescendant. Et donc c'est important pour moi de pouvoir mettre, justement, comme quand je pensé au podcast, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me casse la tête? On a déjà un nom qui s'appelle Lentou, qui regroupe tout le monde et qui correspond à l'idée du podcast. C'est-à-dire que ce podcast me tient à cœur parce que, bon, les gens, je pense que vous avez déjà remarqué là depuis le temps qu'on discute, j'adore parler, je veux parler pendant des heures et c'est important pour moi de pouvoir échanger. Et comme je dis, découvrir en fait d'autres personnes. Je veux mettre en lumière des personnes, des parcours de vie que je trouve inspirants, mettre, voilà, simplement que chacun puisse venir et dire, bah voilà, moi, voici ce vécu, voici mon parcours, voici ce que j'ai appris. Et en fait, qu'à travers ces histoires-là, on montre différentes manières d'être africain, différentes manières d'être afro-descendant. Comment ça peut se manifester? Parce que moi et la plupart des gens qui sont avec moi dans Ejo, en fait, on ne colle pas aux stéréotypes des Africains qu'on peut véhiculer dans la société. Et en fait, moi, je suis convaincu qu'il y a autant de manières d'être africain que d'Africains. Donc, mon idée, voilà, c'est un espace pour nous. Vous venez, on s'installe, on boit un petit thé. On se met à l'aise et apprenons à te découvrir. Okay. Ton parcours de vie, qui tu es en tant que personne, quelles sont les questions que tu t'es posées, quelles sont les réponses que tu as trouvées, quelles sont les questions que tu as encore, qu'est-ce que tu as envie de partager, en espérant que ça puisse aider quelqu'un d'autre à son tour. Comme disait le frère Youssoufa, partage à une personne de ton entourage, qui partagera à une autre personne de son entourage, qui partagera à une autre personne de son entourage, qui partagera à une autre personne, et ainsi de suite. C'est le but d'un tout, venez. On partage et chacun à son tour vient partager et repartager, et ainsi de suite.
Parfait, parfait, parfait. Et pourquoi tu as choisi du coup ce format? Parce que, ok, tu as dit que tu aimais parler, et voilà, te connaissant.
Parce que j'aime parler.
ton ami, je pense que je le sais très très bien, mais du coup, est-ce qu'il y a aussi d'autres motivations ou bien voilà, parce que le format peut-être qui permet de véhiculer. Facilement certaines informations.
Oui, en fait, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Et pourquoi j'écoute beaucoup de podcasts? Parce que quand j'écoute un podcast, j'ai l'impression en fait d'être au bar ou dans le canapé avec des potes. J'ai l'impression de participer à une discussion où je suis peut-être là, peut-être que je participe pas, j'écoute juste, mais je me sens bien. Et en fait, il y a une proximité que j'aime. Et en fait, ça correspond simplement à mon style et à ma personnalité. Je suis quelqu'un de très ouvert, qui aime rencontrer des gens. Parfois, ça peut sembler un peu intrusif. Ah, mais lui, il est trop familier, on vient de se rencontrer. C'est juste comme ça que je suis. Et donc, pour moi, le format podcast, c'était adapté parce que je voulais en fait avoir des discussions. Je ne voulais pas que ce soit un truc formel, on s'assit, cadrage, je ne sais pas quoi. Non, frère, tu viens, on s'assoit et on parle. Parce que pour moi, rien que parler, ça, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat, pas besoin d'être très, très... Non, viens, on discute. Et je suis sûr que moi, quand j'étudie avec des gens, j'apprends énormément de choses. Je retire énormément de leçons de ma vie sans forcément qu'ils se disent « je voulais apprendre, je voulais éduquer Gide ». Juste, ils ont partagé. Et ce que moi, je découvre, ça m'enrichit. Et donc, je me suis dit, vu que j'adore les podcasts, que c'est un format que j'aime, dans lequel je me sens à l'aise, je vais faire un podcast. Comme ça, je serai à l'aise aussi. Et les gens seront à l'aise aussi. Et du coup, on parlera d'autant mieux. Et tout ce qu'on partagera aura d'autant plus de valeur parce que ce ne sera pas écrit, ce ne sera pas figé. On sera juste nous-mêmes, en fait. Juste nous-mêmes.
Ah, merci, merci. Alors, on va conclure sur ces beaux mots. Et en tout cas, je te remercie pour cette ouverture. Si on voit de l'authenticité, tu as vraiment envie de partager ton vécu, mais montrer également que dans chaque chose que tu crées, il y a ton vécu, en fait. Donc, t'as pas peur d'être qui tu es, donc on sent quand même du courage et on l'entend également et on le voit également avec tes créations et les projets dans lesquels tu es. Et donc du coup, en tout cas, merci aussi pour m'avoir invité et pour cette opportunité de pouvoir faire mon premier podcast en tout cas. et voilà, donc en tout cas, merci Egide.
Merci à toi d'avoir accepté, franchement, les auditeurs, auditrices, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager ce podcast. Et comme je disais au début, et comme on l'a dit pendant tout l'entretien, c'est pour vous. C'est un espace pour nous. Donc, n'hésitez pas à donner de la force, à interagir. Si vous voulez venir être invité ou quoi, dites-nous. Et l'espace est ouvert. Donc, on arrive au bout du premier épisode du podcast Lentou. Et on dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Moi, je suis convaincu qu'il faut un village pour construire un monde, en fait. Tout simplement. Donc, rejoignez notre village, rejoignez notre tribu et on se voit au prochain épisode.
Et Jo, la jeunesse d'aujourd'hui,
le monde de demain.